monde poétique. Au festival Voix Vive, à 7h.
Nous sommes bien sûr ici sur le haut du parc Simone Veil à Sète, où il fait un temps radieux pour cette 11e édition de Voix Vive. Et nous sommes en présence aujourd'hui dans le cadre de l'émission Ondes Poétiques, co-organisée par les radios associatives de Lara et en particulier par FM+. Nous sommes en présence et avec la présence de Bruno Doucet, animateur, poète, éditeur, et peut-être que j'oublie encore une casquette.
Non, c'est déjà pas mal, hein. Pour une semaine, ça suffit.
Et de Kolia Mitchevitch, vous êtes poète, traducteur. Vous
êtes poète.
Traducteur poète.
Oui, j'aime la spécifier ça.
Et un traducteur polyglotte, d'ailleurs.
Tant qu'on peut.
Et à mes côtés, pour vous interroger, messieurs Laurent Keller, tous deux, nous venons de Radio Grille Ouverte à Alès. Merci. Bonjour.
Bonjour Yves de Fego.
Alors, puisque vous avez le micro, Kolia Mitchevitch, gardez-le quelques instants, puisque c'est quand même des conditions techniques qui sont un tout petit peu appropriées à cette édition tout à fait particulière. Et voilà, bah, c'est pareil pour ce qu'il y en est. Moi, je remercie les présents, le public présent ici, pas très nombreux, mais attentifs. Merci, mesdames, merci, messieurs. Kolia Mitchevitch, je le disais, vous êtes donc traducteur, polyglotte.
Traducteur de poésie.
Traducteur de poésie, oui. Mais pas que, parce que vous avez traduit quand même Edgar Poe.
Edgar Poe est un poète.
Et c'est aussi quand même un romancier.
Mais je n'ai jamais traduit la prose de Poe.
Vous avez traduit en slovène.
Du slovène,
pardonnez-moi, effectivement, l'œuvre poétique de Franz Prešeren.
Oui, Prešeren, c'est un grand poète slovène.
Que nous ne connaissons pas ici.
S'il vous plaît.
Que nous ne connaissons pas ici.
Ah, oui, maintenant on peut le connaître, parce que j'ai traduit toute œuvre poétique de Prešeren il y a déjà quelques années. Et il est publié en France par un éditeur qui s'appelle Esopi.
Où vous avez, je crois, traduit également Dante Alighieri, la comédie.
J'ai traduit la comédie de Dante en deux langues, en serbe, ma langue natale, et en français.
Parce que, voilà, vous êtes serbe, vous êtes né à Banja Luka, en Bosnie-Herzégovine, qui est actuellement, depuis 2009, également la capitale de la République serbe de Bosnie, si je ne me trompe pas.
C'est ça, géographiquement, c'est ça, oui. Je suis né à Banja Luka, Ben et le port, si vous voulez.
Mais ce qui est extraordinaire, c'est que vous traduisez tous ces auteurs, précisément, en français.
Je traduis beaucoup d'abord en serbe, en serbo-croate. Moi, je pense qu'il ne faut pas séparer ces deux langues, serbe et croate, ce sont deux langues. Et moi, en tant que traducteur, je préfère avoir plusieurs choix dans les mots. Et donc, j'ai beaucoup traduit, je suis traducteur et j'ai toujours vécu comme traducteur. J'ai vécu de ma traduction et pour mes traductions. Je traduis en serbe depuis mes 18 ans jusqu'à aujourd'hui. Mais après, avec le temps, j'ai commencé à traduire timidement et après un peu plus sérieusement en français. Au début, ça me semblait impossible, presque interdit de traduire dans une langue étrangère. Mais maintenant, c'est une expérience que je trouve extrêmement excitante. Et voilà, c'est pourquoi je traduis Dante. C'est un grand volume, la comédie. Mais comme elle n'était pas traduite en vers terza rime, j'ai décidé de faire cette expérience, donc voilà.
Et vous êtes adjoint d'ailleurs un formidable graphiste à vos côtés.
J'ai un très grand graphiste, malheureusement, qui est mort l'année dernière, c'est Vladimir Veličković, un grand peintre, vous connaissez sans doute, qui en plus était le membre de l'Académie française, le seul serbe ou un des rares étrangers qui était le membre de l'Académie française. Il enseignait à l'école des Beaux-Arts. Il est mort l'année dernière. Nous avions encore les projets pour Dante. Il a illustré vraiment ma traduction en serbe et en français. Je présenterai aujourd'hui, je lui rendrai hommage aujourd'hui pendant ma séance consacrée à Dante. Malheureusement, il est mort subitement, comme on meurt quelquefois. Et donc ça s'est arrêté. Veličković, oui, c'est un grand peintre contemporain.
Kolja Mitrović, vous êtes également musicologue.
Je suis un musicologue sauvage.
C'est quoi un musicologue sauvage?
Ça veut dire que je n'ai aucune expérience scolaire. Je suis autodidacte, mais je n'aime pas autodidacte parce que j'ai appris grâce aux autres. Donc on n'est jamais autodidacte, si vous voulez. Mais c'est vrai que j'ai développé ma musicologie bizarrement très très large. Je suis en train d'écrire le dixième volume de mon histoire de musique. Qui commence... Et je pense que la seule histoire de musique qui commence par ce compositeur qui est Jubal. Jubal, c'est un des personnages... Oui, c'est ça, c'est là où commence notre musique. C'est un personnage de la Bible. C'est le quatrième, je pense, génération de Caïn. Et la Bible dit très bien qu'il avait forgé les premiers instruments à cordes, les flûtes, et quelqu'un qui faisait ça sans doute composait et chantait et avait sans doute et les professeurs et les maîtres et les élèves. Donc je vois Jubal comme le premier nom de musique. Ma musicologie donc commence par ce Jubal, qui est un personnage fascinant que j'ai découvert pendant mes travaux en écoutant une ballade d'un compositeur et poète français de Moyen Âge, Jean de Sizois. Jean de Sizois, c'est un personnage qui appartenait à ce mouvement pas très connu mais magnifique qui s'appelle Ars Subtilior. C'était avant la polyphonie, la vraie polyphonie. C'était un peu des gens fous qui faisaient des choses extrêmement compliquées, qui faisaient des dessins avec les notes. Maintenant, ça devient assez connu. Mais pendant très longtemps, il était refusé, interdit presque, traité comme les décadents, parce que c'était des gens vraiment indépendants. Et il travaillait à l'époque des papes d'Avignon, où il avait beaucoup plus de liberté pour faire des choses un peu bizarres, très bizarres. Donc Jean de Sizois a écrit une ballade qui est très belle et qui commence exactement par « Pythagoras Jubal Orphée ».
Ah, voilà, oui. Trois noms.
Trois noms capitaux. Mais Pythagoras et Orphée, je savais, mais Jubal, je me suis dit « qui est Jubal ?» Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui connaissait Jubal. Maintenant, c'est très facile dans la Bible. Jubal, on l'explique.
Vous venez de nous le faire connaître.
La Bible, en trois lignes, l'a décrit très, très bien. Après, on le trouve sur les iconographies de Moyen Âge. Jubal était assez souvent présenté. Il a disparu après, je ne sais pas, parce qu'il n'y avait pas de texte. Mais je pense tous les psaumes, tout ce qui vient comme les psaumes de David, et tout ça, c'était déjà... préparé par Jubal et par son école.
Par son ancêtre. Kolja Mitrović, visiblement, on pourrait parler musique avec vous et vous écouter longuement, mais si vous êtes ici, sur ce plateau d'ondes poétiques, c'est pour vous entendre, vous, vos propres textes poétiques. Et pour cela, je laisse Laurent Keller, vous interroger.
On a parlé de Dante, de la comédie de Dante, puisque c'est le titre que Dante avait utilisé, la comédia, qui est devenue la Divine Comédie par tous les écrivains qui ont suivi, qui l'ont qualifié de ce terme-là, parce que l'œuvre de Dante, c'est vraiment une œuvre très, très ambitieuse qui englobe un peu à l'image de l'ogre de culture que vous nous avez présenté, là, de soif de culture. Dante également va puiser dans la mythologie grecque. Il y a un personnage d'Ulysse, par exemple, qui apparaît dans la Divine Comédie. Est-ce que quand on est traducteur, comme vous, il ne faut pas embrasser également cette immense ambition de Dante ? Parce que traduire les trois volumes, les trois volumes de la comédie.
Cantique, on l'appelle cantique parce que Dante est très près du chant. Oui. Sans accompagner sa comédie par les instruments, il essaie de recréer le chant par la parole.
Avec cette ambition également d'avoir une œuvre close sur elle-même en 100 chants, 3 fois 33, plus un texte d'introduction. Et vous êtes sensible à ça, j'ai l'impression, parce que vous êtes sensible à cet aspect formel, à cet aspect formaliste, et terza rima, donc cette rime, ces trois vers rimés,
oui,
que vous êtes attaché à rendre en français et en serbe.
Oui, c'est vrai que c'est un peu paradoxal que j'ai d'abord essayé de le faire en français, dans une langue étrangère, parce que c'est vrai, les Français n'ont jamais essayé de recréer la terza rima. La Dante était traduit ou en vers qui n'était pas terza rima. Par exemple, il existe une traduction d'un certain Abbé Grangier qui a traduit ça dans les formes qui étaient en mode quand il était vivant. C'était fin du XVIIIe siècle. C'est une traduction qui est connue parce qu'elle existe, elle était entière. Après Rivarol, le grand Rivarol, qui a extrêmement bien parlé de Dante, il a écrit une préface sur la traduction qu'il faut connaître absolument. Mais en pratique, Rivarol a vraiment nui beaucoup à Dante. Il a purifié Dante de tous les mots un peu trop libres, quelquefois qui vont très loin, et il trouvait que c'était un peu, qu'il fallait nettoyer ce texte. Donc il a fait plutôt vous savez, Rivarol était un grand exilé comme Dante. Il a traduit Dante pendant son séjour en Berlin et après la Révolution. Et il a nui beaucoup parce que je pense qu'il ne faut pas toucher au texte. Le poète dit le cul, il faut dire le cul. Et pendant très longtemps, certains vers étaient, au fond, les poèmes remplaçaient le mot qu'il fallait prononcer. Quand un diable fait une trompette de son cul, ça, c'est, il faut le dire. Par exemple, il y a d'autres choses, il y a beaucoup d'endroits que Rivarol avait. Et donc, il a ouvert une sorte de liberté de chemin, un peu que les traducteurs ont suivi, et sans jamais essayer de serrer un peu poétiquement, techniquement. J'adore le mot technique que vous prononcez, parce que la technique poétique est vraiment presque la seule chose qui m'intéresse dans la vie. Et je pense que chez Dante, au fond, on peut montrer exactement si on a appris à jouer le violon ou non.
Il faut dire que l'œuvre de Dante va être très fort d'actualité cette année et l'an prochain, puisque la mort de Dante a lieu en 1321. Oui, et ça va être un sérieux anniversaire.
Sept siècles, exactement. J'ai proposé à la directrice du festival de faire cette journée sur Dante comme une sorte d'ouverture, de prologomène pour les vraies fêtes. J'espère que l'année prochaine, on fera un peu de choses plus bruyantes.
Il est mort de la maladie du choléra, Dante.
Oui, c'est vrai. Dante était certainement extrêmement épuisé. C'était un homme dans un exil continu qui fuyait tout le temps, qui se cachait. Il faut dire qu'il a fait une œuvre parfaite dans des conditions extrêmement difficiles. Peut-être les conditions très difficiles, obligent quelqu'un qui a pris la plume d'écrire d'aller très loin, très fort, de se venger. Et Dante a réussi un coup qui ne sera jamais réalisé, ni après lui, ni avant lui, presque même Homère. Il a dépassé et Homère et Virgile, qui étaient ses grands prédécesseurs et qu'il reconnaissait comme ses prédécesseurs.
Qu'il reconnaissait, mais
bien sûr,
dont il ne permet pas qu'il l'accompagne jusqu'au paradis, puisque c'est un poète chrétien et que l'Antiquité gréco-latine, n'ayant pas connu le Christ, eh bien, Virgile doit s'arrêter
oui,
avant.
Il y a une ligne qu'il ne faut pas traverser. Bien sûr, c'est extrêmement bien théâtralement, c'est très beau. Dante est beaucoup de choses, il est aussi un auteur de théâtre. Je pense, et j'aimerais faire ça, mais on ne peut pas tout faire. Je vois très souvent Dante comme une pièce de théâtre. Bien, ça serait une pièce qu'on pourrait jouer pendant plusieurs jours.
Oui.
Vous savez, on faisait ça. Il y a, la comédie est une, et je ne dis jamais la divine, parce qu'il n'a jamais appelé ça la divine comédie. La comédie est une suite de rencontres et de dialogues. et quelquefois les trialogues, si vous voulez. Donc ce sont les scènes très dramatiques, extrêmement dramatiques. Ça pourrait d'abord servir aux étudiants de la dramaturgie, de s'exercer sur la prononciation, sur les gestes, sur les rapports. Il y a tellement une telle diversité que c'est presque inimaginable. Dante, on le présente souvent comme l'auteur de l'enfer, comme un terrible juge qui va et qui punit. Ce n'est pas du tout ça. Dante est un délicat, un esprit ouvert à tous les vents. Et on peut parler de Dante aussi comme un anthologiste qui a fait une anthologie. La comédie est une anthologie des poètes, par exemple. Vous avez dit que dans l'enfer, il y a un endroit qui s'appelle Limbe. C'est Dante qui a créé cet espace où sont placés les gens qui n'ont pas fait de péché, mais qui tout simplement n'étaient pas baptisés. Mais dans ce cercle qui s'appelle Limbe, il y a un coin qui est un coin pour les poètes. C'est extrêmement moderne. Et dans ce coin, il met les plus grands. Comme ça, déjà, Dante a sauvé de l'oubli beaucoup de poètes. Quand on a commencé à s'intéresser à des troubadours, on a trouvé pratiquement toute la poésie des troubadours expliquée chez Dante. C'est dans le purgatoire. Mais dans le Limbe, il y a ce salon des poètes où Dante rencontre Homère, Ovide, Lucain, Horace et Virgile. Donc c'est merveilleux. Dante passe donc à côté des plus grands poètes et c'est son choix. Il a bien choisi parce que tous ces poètes restent encore poètes présents, vivants, oui, qu'il faut connaître. Et ce qui est magnifique en tant que catholique, mais Dante était un catholique plus grand que pape, donc il n'était pas le vrai catholique, il considérait Homère comme le plus grand, pas Virgile. Il a très bien situé les valeurs, les importances, la place que chaque poète occupe. Donc Homère est le début de tout. Virgile a imité Homère et Dante a imité et Virgile et Homère. Les poètes ne doivent pas avoir la peur de l'imitation. Imiter, c'est pas imiter si on sait varier. Dante est un grand variateur, c'est un musicien avec son instrument qui varie les sujets connus, mais dans une nouvelle forme, dans une nouvelle langue, et tout ça. C'est infini, Dante. Une fois, j'ai parlé 10 heures à Belgrade, en serbe, j'ai choisi, mais j'avais des enclumes, parce que Dante est l'amateur. Le plus grand instrument de Dante, c'est l'enclume, parce que pour lui, le poète est forgeron. Et il dit fabro, donc le mot fabrica, fabrication du poème. Valéry, notre maître à tous, et notre patron, il a employé une fois le mot fabrication en parlant de la poésie, et on l'a attaqué. Mais Dante, Valéry, qui savait que Dante, qui était grand lecteur et admirateur de Dante, il savait que fabrication, c'est l'enclume et le marteau. Et tout se passe donc la plume et la table.
C'est presque la définition de la poésie.
Exactement. Forger les mots, forger la langue, c'est notre. Vous êtes d'accord que vous forgez. Quand vous faites une anthologie, vous la forgez.
Oui, c'est ça. C'est exactement ça.
Donc, forgeron, c'est un mot. Par hasard, mon père était forgeron. Je suis ravi. Je n'ai jamais vu l'enclume de mon père parce que quand j'étais né, j'étais son 10e enfant. Et mon père était déjà un peu à la retraite. Il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre que mon père était forgeron. Parce que pour moi, l'enclume était... En plus, j'ai découvert que en français, l'enclume rime avec l'écume. Le mot le plus léger et le plus lourd. Et c'est ça ce qui est aussi une très belle image. L'enclume et l'écume, voilà, il y a un rapport qu'on peut établir.
Et forgeron se conjugue au pluriel, c'est aussi nous forgerons, c'est-à-dire qu'on a besoin du lecteur pour écrire un poème.
Bruno Doucet, vous confirmez que lorsqu'on est poète, il faut exercer plusieurs métiers, et vous, votre cas, c'est... Être éditeur, être découvreur.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que la poésie, c'est un peu comme une source qui apparaît et qui disparaît de la surface de la Terre. On ne peut pas vivre en état de poésie 24 heures sur 24. Je pense qu'à ce moment-là, ou alors on devient Antonin Artaud, on est brûlé par une incandescence trop forte. Et donc le travail du poète, ça consiste parfois à retrouver l'eau du poème que l'on a un peu perdu, à être sourcier pour faire revenir le poème dans la vie de tous les jours et faire en sorte que sa transparence nous étonne et que sa fraîcheur va porter le rire aux lèvres, par exemple. Voilà, donc l'éditeur, c'est celui qui est... En fait, il est malin, l'éditeur de poète. C'est parce qu'il assigne la poésie à résidence dans sa vie. Voilà.
Vous avez débuté en étant directeur dans la maison d'édition de Pierre Segers.
Oui, j'ai dirigé les éditions Segers pendant de 2002 à 2009.
Et lorsqu'elle a coulé, en fait, ouais, elle a pas... rachat.
Elle n'a pas coulé, moi non plus. Enfin, c'est-à-dire qu'elle a été rachetée par une multinationale qui a considéré à un moment donné que la poésie et la crise n'étaient pas compatibles. Moi, je disais, mais si, c'est exactement le contraire. Hein. C'est quand on est en état de crise, les crises sociétales, les crises individuelles, que la poésie est tellement importante. Et on m'a dit, non, mais nous, on parle de dividendes à verser aux actionnaires. Alors... voilà, donc c'était pas possible de continuer dans ce contexte-là. Et en 2010, j'ai créé ma propre maison d'édition, qui est une maison totalement indépendante, et c'est-à-dire donc libre de ses choix et de ses refus. Et il se trouve que cela coïncidait avec la première édition du festival, ici même. Et j'étais invité comme poète, et l'année suivante, Maïté Vallès-Blaine m'a demandé si je voulais devenir l'éditeur de l'anthologie annuel du festival.
Est-ce que vous êtes depuis...
je me demande comment ça a été possible, hein, parce que 10 ans, c'est-à-dire, ça fait 10 années que je ne vois pas le mois de juin dans le calendrier. Je pourrais enlever un des 12 mois, celui-là n'existe pas pour moi, puisque pendant un mois, je ne fais que ça. Préparer l'anthologie, courir après les traductions... appeler les poètes pour m'assurer que la disposition du texte, ça, je dis ça pour Colia, va convenir, voilà, parce que parfois le texte doit être millimétré et présenté correctement. C'est une mise en espace, la poésie. Et donc c'est assez difficile, mais on arrive quand même à sortir une anthologie qui rassemble cette année 71 poètes, 20 pays, 13 langues. Mais vous le savez, certaines années, c'était 100, 120 poètes, 40 pays, 25 langues, enfin, voilà. Et évidemment, on publie ces textes, on publie les auteurs qui sont invités, un poème. Pendant longtemps, on a réservé aux poètes la belle page, la page de droite, voilà, en langue originale. Cette année, j'ai fait l'inverse parce qu'il y a moins de textes en arabe, en hébreu, ou voilà, d'autres langues.
En tout cas, vous avez réussi à créer une identité visuelle avec les couvertures de vos livres, qui sont très reconnaissables à présent, avec ces rayures.
Voilà, c'est un tramage en diagonale. C'est une diagonale, c'est-à-dire c'est la ligne la plus grande dans un carré. Voilà, c'est une tangente.
C'est encore une affaire de technique et de forme.
C'est beaucoup une affaire de technique. Surtout quand il s'agit de faire passer 4 fois la couverture dans une machine, parce qu'il y a 4 couleurs qui se déposent. Voilà. Si on ne fait pas attention, ça devient illisible, ça vibre. On fait attention.
Pendant cette période de confinement, on vous a vu beaucoup sur les réseaux sociaux. Vous avez essayé de continuer à faire vivre cette maison de poésie, alors que les livres ne pouvaient pas plus paraître. Et ça vous a donné envie de poursuivre de nouvelles propositions, visiblement, visuelles, des rendez-vous comme cela réguliers.
Oui, c'était d'abord l'idée que dans cette situation où nous étions, où même nos plus proches amis, nos parents, etc., ne pouvaient plus venir frapper à notre porte pour prendre un café, où on était privés de relations, la poésie pouvait apporter une parole et pouvait, au fond, permettre d'ouvrir portes et fenêtres dans cette période de confinement. Donc on a proposé 3 rendez-vous journaliers, et surtout ce troisième rendez-vous qui se faisait en direct sur les réseaux sociaux, tous les soirs à 18h30. Et ces amis, ces faux amis, ces amis virtuels que sont les amis sur Facebook, par exemple, des amis qui n'en sont pas, mais en sont devenus. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une communauté s'est créée au quotidien. Et les gens nous disaient, ben oui, continuez, le texte que vous avez lu aujourd'hui m'a fait du bien, etc. Alors ensuite, D'ailleurs, on a vu que sur le marché du livre, ici, depuis le début du festival, à peu près une personne sur deux qui vient acheter un livre nous parle de ses apéros poésie et viennent évoquer ce qu'ils ont ressenti. Donc c'est vraiment que la poésie, dans cet exil que nous avons tous plus ou moins vécu, a permis d'établir un lien.
Et vous allez poursuivre ces instants, ces moments sous une autre forme, sous un autre format ou...
Ben, ce que j'aime faire, c'est dire des poèmes. Donc là, on est... voilà.
Oui.
Oui, parce que la poésie, c'est comme le whisky. Le whisky, c'est bien d'en parler, mais déguster, c'est mieux. Mais la poésie, c'est pareil. Golia, tu es d'accord?
À moitié.
Non.
Lui préfère la glose et moi la glaise des mots.
Bruno Doucet, s'il vous plaît.
Je ne bois pas le whisky. Je bois le vin blanc uniquement.
Ah, voilà. Voilà. Bon.
Quand j'entends whisky, j'ai un peu... C'est pas... j'ai peur. J'ai toujours exagéré si j'ai commencé à boire le whisky.
Non, mais à cette heure-là, c'est...
Même avec le chaud, je me souviens toujours qu'il fallait être chaud pour boire du whisky.
Bon, alors, je vous propose de faire une lecture à présent de vos textes. Mm-hmm. Et on poursuit après cette lecture.
Alors, deux poèmes. L'un pour dire l'importance du poème avec des mots simples. Et puis un autre pour dire comment se comporte la poésie quand on parle trop d'elle. La première fois que je t'ai lu un poème, tes yeux se sont mis à briller d'une manière étrange. Je ne saurais dire ce que j'ai vu dans ton regard ce jour-là, mais une porte s'est ouverte sur une façon de vivre et de chanter la vie que peu de gens connaissent. Alors, je me suis mis à écrire des poèmes pour toi, des poèmes sur toi, des poèmes d'eau, de farine et de sel que nous avons pétris à quatre mains. Dans la pâte encore tendre de mes poèmes, à chaque fois je glissais un peu de ce levain qui fait gonfler les mots, qui fait trembler le sens, qui fait trembler tes sens. Depuis, je me nourris du pain de ton regard. Et puis le deuxième poème. Il s'appelle le poème du jaguar. Dans mon poème, il y a une jungle, des fleuves, des volcans impétueux et un chapelet d'îles minuscules, pareil à des trouées de lumière dans la nuit verte des étoiles. Il y a une petite communauté humaine dans mon poème, des peintres naïfs, quelques statues précolombiennes et le bruissement des langues chuchotées sous la canopée. Il y a des oiseaux de jour et des oiseaux de nuit, une pierre tombée d'on ne sait où, et une jeune femme qui traverse l'archipel en pirogue. Ne me demandez pas si le jaguar est présent dans mon poème. Il en est sorti d'un bond quand il a su qu'on parlerait de lui.
Bravo. Kolia Mitchevitch, alors je ne sais pas si le micro... Voilà. Kolia Mitchevitch, on pourrait peut-être également vous entendre, parce que nous sommes venus non seulement pour vous entendre parler de Dante et de musicologie, mais également pour entendre vos propres textes.
Bien sûr, oui.
Merci.
Moi, je pense que quant aux textes, il y a des textes qu'on écoute et qu'on regarde.
Oui.
Moi, je suis plutôt pour les textes qu'on regarde, pour plusieurs raisons formelles. Comme je disais que la technique m'intéressait. Bien sûr que Bruno a sa technique aussi, mais cette technique est audible, je pense. Ce que je fais, c'est pas tellement audible. Et il y a beaucoup de choses à voir.
D'ailleurs,
par exemple, j'ai une manie, mais cette manie m'a quand même donné beaucoup de bons fruits pour Dante, parce que Dante est le premier poète dans la littérature, dans la poésie européenne, qui a coupé un mot en syllabes. Il y a un moment dans le paradis où il coupe le mot différentement.
Ce que vous aimez faire vous-même.
Je commençais à couper les mots beaucoup plus avant. Et quand j'ai commencé à traduire Dante, je me suis dit, mais est-ce que Dante a jamais pensé à couper un mot? Parce qu'on ne voit pas tout de suite toute la comédie. Quand j'ai trouvé dans le 24e chant qu'il coupe le mot différentement, j'ai compris que j'étais à bon endroit. Mais ce n'était pas très facile de traduire un mot de 15 lettres coupé en 10 et 5. Ce n'est pas seulement... Il faut... Parce que ça dit quelque chose, ce chiffre.
Alors, qu'est-ce que ça dit ?
S'il vous plaît.
Qu'est-ce que ça dit ?
Différentemente, ça veut dire différemment.
Non, mais pourquoi, justement, qu'est-ce que ça dit de couper les mots comme vous le faites dans vos propres textes ?
Parce que comme ça, on obtient des images nouvelles. Ce n'est pas moi qui ai inventé ça, c'est Aragon qui a commencé à couper les mots pour obtenir de nouvelles rimes. Parce que la versification française était tombée déjà dans la nuit, dans la répétition, dans l'académisme. Et Aragon, qui était le plus aérien de tous les surréalistes, il a commencé et après Breton lui a interdit. Moi, je continue à peu près là où Aragon a...
Breton n'est plus là pour vous interdire cela.
Il faut, bien sûr, qui oserait. non, je veux dire, j'écris en français et en serbe, je ne me traduis pas. C'est comme ça. Moi, je vais lire un poème, je le lirai lentement. C'est un recueil qui s'appelle « Le Petit Testament bosniaque », écrit parallèlement avec le début de la traduction de la comédie. Je vais rendre hommage ici à un poète français qui n'est pas connu, qui est à peu près comme Jean de Cizois, un peu écarté, pas connu, mais grand. Il appartient à une famille de poètes qui s'appelle les grands rhétoriqueurs. C'était une famille de poètes qui, juste après Villon, il arrive après Villon et qui jouait beaucoup avec la langue, inventait les jeux de mots, les anagrammes et toutes sortes. Une fois, je trouvais une solution pour un quatrain contre la guerre de Jean Molinet. Jean Molinet est mon poète et je me considère comme son un peu héritier, si vous voulez. Ce n'est pas Mallarmé ou Baudelaire, mais je me déclare de Jean Molinet. Jean Molinet a écrit beaucoup sur les guerres qui étaient toujours présentes à l'époque, comme aujourd'hui. Il a écrit un poème long, magnifique, qui s'appelle « Testament de la guerre ». C'est la guerre qui fait son testament. Je vous conseille de lire ça, c'est fascinant. Il a écrit aussi des petites choses. Et il y a un poème dans lequel, brièvement, il dit quelque chose qui était nécessaire pour moi à l'époque où la guerre dans Bosnie était vraiment à son comble. Et il dit « Concorde, concorde ». Voilà, c'est une image très, très forte. Et j'ai écrit donc cet hommage à Jean Molinet dans un cycle de poèmes qui s'appelle « Exil montant ». Car j'habitais dans la rue Ménilmontant. Voilà, la géographie parisienne joue beaucoup dans certains poèmes. Je lirai le plus attentivement possible. Ces cris qui viennent de très loin, transformant l'écriture du loin si près. Ces crimes horde des traîtres contre la concorde et l'ordre, cela s'inscrit mal dans ma conque hors de ce péril. Ah, tous ces cris, c'est la concorde, concorde.
Voilà. Merci.
Un poème comme ça. Et je dirais, pardon, merci. Je lis rarement mes poèmes, c'est vrai. Et je vous lirai parce qu'on a le droit à deux poèmes.
Vous avez tous les droits.
Non, il ne faut pas. À un moment, en 92, quand j'ai décidé de rester en France, et c'est là où j'ai commencé à traduire la comédie, je ne me sentais pas comme exilé. France ne peut pas être mon pays d'exil. Si je voulais être en exil, j'irais en Islande ou je ne sais pas où. Ici, je suis chez moi, mais quand même, je ne pouvais pas rentrer là-bas. Je ne voulais pas rentrer parce que ce n'était pas nécessaire. Je ne pouvais rien faire. Mais on me posait beaucoup de questions sur la Bosnie et j'ai écrit un recueil dans le recueil qui s'appelle « Quand le beau se nie ». Voilà, c'est aussi une invention géographique. On peut même écrire « Quand le beau » avec un accent « beau se apostrophe nie ». Donc la Bosnie est devenue pour moi une image terrible. Et c'était une façon d'expliquer qu'est-ce que c'est et j'ai choisi une forme de carte postale. Je m'imaginais dans la Bosnie d'écrire les cartes postales pour dire brièvement un texte qui peut se lire graphiquement sur une carte postale. Pour avoir ceux qui recevraient les poèmes, je choisis les noms dans le bottin. Voilà, dans l'ordre alphabétique, et c'est fantastique, les noms dans le bottin. C'est toute une poésie extraordinaire. Donc ce sont des poèmes de 5-6 vers, et toujours commence par « Qu'est-ce que c'est la Bosnie ?» Je vais trouver. Il y a par exemple des gens qui s'appellent Balkany, des choses comme ça. Non, mais il y a, c'est assez fascinant.
C'est l'enfer dedans.
C'est l'enfer, oui. Il y a quelqu'un qui s'appelle Agisson. Toute une imaginerie. Ça s'appelle donc le Petit Testament bosniaque, mais le titre est « Quand le Bosnie ». Il y a aussi un Aboubakar. Aboubakar, parce que j'ai commencé par l'ordre alphabétique. Mais Aboubakar est le personnage d'un roman à moi qui s'appelle « La légende africaine ». Donc tout ça, c'est assez lié. Il y a Edgar Allan Poe, ou Ferry, Forme. Il y a quelqu'un qui s'appelle Forme. Et donc les noms sont extrêmement... je lirai, il y a Madame Épée.
Ce sont des noms significatifs.
Je choisis d'après la signification. Je ne sais pas lequel. Donnez-moi le titre entre 1 et 53. Il y a 53 poèmes. J'avais 53 ans, j'ai écrit 53 cartes postales. Quel chiffre? Je ne sais pas.
27.
Voilà,
merci Laurent. 27.
26. Je. Cher Bruno de Je. La Bosnie, ses lèvres brûlent d'un feu que moi je célèbre en dernier et peu avant les ténèbres. Voilà, c'est un poème sur la Bosnie. À l'époque, on parlait beaucoup de Bosnie. Et moi, j'ai proposé d'expliquer tout ça par mes vers. Alors, je me considérais un peu comme fou. Je dis, je ne vais pas me lancer à des tables tournantes et rondes pour parler de la Bosnie, mais je peux lire les poèmes qui expliqueraient ma vision.
Bruno Doucet, vous qui avez justement édité un certain nombre de poètes engagés.
Oui. Oui, engagé, pas seulement, enfin,
oui, mais politiquement,
des poètes venant du monde entier. Alors, quand, par exemple, on est une femme et que l'on vient de Syrie, aujourd'hui, forcément, on a des choses à dire sur le rapport au monde, sur le rapport aux hommes, sur le rapport à la religion, aux frontières, à la guerre, etc. Voilà, c'est en ce sens qu'il faut l'entendre.
Que vous entendez, précisément, ce que dit actuellement Kolia Mickiewicz.
Oui, alors... Moi, j'admire beaucoup le travail de Kolia Mickiewicz. Il a dit qu'il était un traducteur sauvage, mais il a dû dompter pour traduire, par exemple, la comédie de Dante. Il a dû apprivoiser le temps qui passe. C'est quand même phénoménal. C'est un travail phénoménal. Mais ma poésie, par exemple, est assez différente. Tu l'as dit. Hein, parce que, pour toi, la recherche formelle, elle est... on va dire assez prépondérante. Le travail, par exemple, que tu fais dans le premier poème que tu as lu sur les homophones, si près, etc. Voilà, écriture. Au fond, ce que tu fais, c'est faire jouer pleinement les mécanismes du langage.
Un jongleur de mots.
Oui, je crois que c'est ça. Un peu dans la tradition des troubadours ou des rhétoriqueurs. Du Moyen-Âge, et d'ailleurs les traditions que Kolia vivifie, elles viennent de loin, elles viennent de ce terreau très ancien. Moi, je cherche plutôt peut-être une musicalité, et je cherche à faire en sorte que, depuis quelques années, le poème trouve une espèce de transparence, de simplicité, et qu'on se dise, on comprend tout et on ne comprend pas tout à la fois.
Oui, parce que vous refusez certain académisme.
Oui, c'est pas le refus. Je me souviens très bien que lorsque j'écrivais mes premiers poèmes à 15 ou 16 ans, etc., et que un premier éditeur les a lus, il m'a dit, maintenant il faut désapprendre. Voilà, tu as lu Nerval, tu as lu Rimbaud, Baudelaire, Apollinaire, etc. tu es en capacité de les imiter, de te mettre sur leurs traces, de suivre leurs pas, etc. Mais maintenant, il faut trouver ta voie. V-O-I-E, V-O-I-X, comme tu veux. Et pour ça, il faut désapprendre. Et je pense beaucoup cela. Je pense cela, par exemple, pour l'enseignement de la poésie. Je pense que l'une des grandes difficultés, c'est que les enseignants, je peux le dire, je l'ai été, deviennent un peu des médecins légistes de l'écriture poétique, qui sont extrêmement habiles pour faire l'anatomie du texte, mais ce qu'il faut faire, c'est en faire sentir la vibration. Vous voyez, on ne demande pas à un joueur de oud, par exemple, de venir expliquer au public comment se nomment les centaines de pièces qui constituent son oud et comment on le fabrique. On lui demande de faire sonner l'instrument. Et pour la poésie, je crois que c'est pareil. C'est ce que j'ai voulu dire dans le poème du Jaguar, c'est que lorsqu'on parle trop d'elle, elle fiche le camp.
Elle est là,
elle fiche le camp.
La poésie n'est pas là où on l'attend.
Non, elle n'est pas là où on l'attend. Et ça veut dire aussi qu'on peut la trouver partout. Et ce qui compte, c'est notre capacité à transformer notre regard. Okay. Sur les choses.
J'ai une question pour vous deux, messieurs. Mmh. Ce matin, j'entendais le metteur en scène Jean Bellorini qui reprenait à son compte la formule célèbre d'Antoine Vitez, élitaire pour tous, en parlant du théâtre populaire. Est-ce que la poésie, c'est... On pourrait peut-être utiliser ce même oxymore pour la poésie, élitaire pour tous ?
Bien sûr. Mais parce que nous sortons quand même d'une longue période, ici, en France, où la poésie a été confisquée par des intellectuels. Où bien des lecteurs ont pensé qu'il fallait avoir une agrégation linguistique pour accéder aux poèmes, et où les poèmes se sont mis à donner des crampes mentales aux gens. Voilà. Et on est parfois même allé très loin dans ce domaine. Voilà, quelques vertiges linguistiques sur une page, beaucoup de blanc, peu de mots, des textes qui ne sont pas compréhensibles et une sorte de labellisation du poète comme étant génial. C'est pas... Là, il y a quelque chose qui ne me satisfait pas, pas du tout. Et en tout cas, dans le travail éditorial que je fais, je tourne le dos aux perspectives de laboratoire quand elles sont... quand on perd le sens de la relation à l'autre. Mais en fait, un poème, et Collia l'a vraiment bien dit, ces mots dont on casse la ligne, c'est pas parce que le poète est paresseux et n'a pas la force d'aller au bout de la ligne, c'est parce qu'il laisse un grand territoire de blancheur à autrui. Voilà, et ce territoire de blancheur, c'est un espace de silence, de réflexion, de rêverie, de prolongement personnel, de sorte qu'il faut être deux pour faire un poème. Il faut quelqu'un pour l'écrire, et il faut quelqu'un pour le lire. Et je termine en vous disant, publier des beaux livres, c'est pas suffisant. La poésie, c'est une porte qui s'ouvre à deux battants. Il faut bien sûr le premier battant du livre, c'est comme dans les saloons, vous voyez. Il faut le premier battant du livre, sans lequel il n'y a pas de pérennité du texte, et il n'y a pas non plus de transmission par-delà l'espace et le temps, mais il faut le deuxième battant de l'oralité, d'où procède la poésie. Elle vient de là, dans l'histoire des individus et dans l'histoire des peuples. La parole, cette parole levée a été première, elle préexiste à l'écriture, et donc il faut faire en sorte que le poème revienne dans ce giron de la langue prononcée, de la langue dite ou chantée. C'est ce qu'on fait dans ce festival. Voilà.
Ce que vous dites, Bruno Doucet, me fait penser à l'une des auteurs que vous publiez, Fabienne Sviatli, « Elles sont au service ». Dont vous avez souligné l'actualité du texte qu'elle nous donnait. C'est l'occasion de parler également des femmes auteurs dont vous faites l'ambassadeur. Tout à l'heure, notre réalisatrice faisait remarquer que c'était un plateau très masculin sur scène.
C'est vrai.
Mais dans vos publications, vous êtes très attentif à avoir cet équilibre entre poète homme, poète femme.
Oui, alors je ne m'applique pas des quotas, hein. Pas du tout, hein. C'est-à-dire que je voyage par la littérature et je sais que si les voix masculines se disent ou sont prépondérantes en France, elles ne le sont pas ailleurs. Et allez au Québec, allez voir, montez dans le monde amérindien, du côté de Terre-Neuve, vous allez voir, les voix féminines sont d'une puissance extraordinaire. En Amérique latine, en Haïti, dans l'hémisphère sud... en Océanie, etc., en Afrique. Je suis frappé, par exemple, de voir que pendant longtemps, les anthologies de la poésie africaine, même récentes, je ne vous parle pas de l'anthologie de Léopold Sédar Senghor, qui datait des années 40, mais Il y a des textes merveilleux qui chantent les femmes, mais il n'y a, pour ainsi dire, pas de texte de femmes. C'est quoi ? Voilà, donc effectivement, dans mon catalogue, il y a presque autant d'hommes que de femmes. C'est bien de retourner la formule, hein, presque autant d'hommes que de femmes. Et le texte de Fabienne, il est magnifique, parce que le texte de Fabienne Sviatli, elles sont au service. Ce sont des petites proses, 62 petites proses, des petits pavés de texte, sans grandiloquence, avec des moyens modestes, des intentions modestes. Et chacune de ces proses évoque une réalité professionnelle de la vie des femmes. Chaque prose, un métier, des instantanés, cadrés serrés, sans apitoiement, sans jugement, la subjectivité à distance, comme si elle filmait derrière une vitre, mais c'est d'une force extraordinaire. Et quand j'ai découvert ce manuscrit, mais je me suis dit, j'en ai lu 15 ou 20, je me suis dit, c'est génial, c'est le livre que bien des écrivains auraient voulu écrire, mais par contre, l'éditeur s'est dit aussitôt, mais ça va peut-être pas tenir, sur 64 pages, on va un peu s'ennuyer, parce qu'il n'y a pas de principe d'ouverture, de clôture, voilà, ça pourrait être reconstruit autrement. Et puis au bout de 64 pages, vous êtes bluffé et vous vous dites, mais oui, il y a une force du langage, il y a une authenticité de l'écriture, c'est quelqu'un qui ne se paye pas de mots, et ce livre-là va trouver le chemin des lecteurs, et c'est une parfaite réussite, puisqu'il est sorti juste avant le confinement, c'est quand même un tirage de 1500 exemplaires, et là on va le réimprimer, donc c'est bien. C'est bien. On dit souvent que le tirage moyen d'un livre de poésie, c'est 400 ou 500. Donc, quand on voit que des textes comme ça, qui parlent, qui s'adressent à tout le monde, peuvent vraiment rencontrer autant de lecteurs, c'est formidable.
Bruno Doucet et Kolia Mitchevitch, vous êtes tous les deux membres de l'équipe du festival et vous invitez, donc vous faites partie du comité de sélection également des poètes. Kolia Mitchevitch, peut-être du côté de la Méditerranée balkanique. Est-ce que vous avez vu évoluer un peu la poésie au cours de ces 10-20 années passées jusqu'à aujourd'hui ? Est-ce que l'audience d'un festival comme cette a attiré des poètes ?
Oui, jusque l'année dernière, j'étais vraiment animateur. Je ne suis plus animateur, je travaille un peu. On choisit un sujet, je ne sais pas comment on m'appelle maintenant, je ne suis même pas poète dans ce sens. Oui, faire le choix des poètes des Balkans, c'est une grande épreuve, c'est très tentant. Il y a beaucoup de poètes comme partout dans le monde. Et comme vous savez, les Balkans, en gros, c'est une ancienne Yougoslavie qui s'est, séparée en six différents petits États. Et chaque État est maintenant un poète. Il faut trouver un poète qui représenterait. Donc ils se connaissaient tous, ils se connaissent tous, ils parlent presque les mêmes langues. Mais ils sont séparés là-bas, ici ils sont très unis. Je vois chaque année une petite Yougoslavie réunie. Et pour moi, c'est le plus grand plaisir. Ça montre qu'il reste un esprit d'unité qui a complètement éclaté là-bas. Il y a une évolution. On peut remarquer que depuis, j'appartiens au festival depuis 20 ans, encore quand il était à l'Odev. Donc j'ai assez longue histoire avec ce festival. Et je continuerai à aider Maïté Vallès-Bled de faire venir les poètes des Balkans. Je dirais quelque chose, ce que Bruno parlait, le rapport entre féminin et masculin, c'est très intéressant. Aussi dans la musique, c'est une chose extrêmement visible aussi. Les femmes sont, pendant très longtemps, ou présenté par un anonyme. Quand vous trouvez un compositeur anonyme du 17e siècle, c'est une femme presque certainement, ou très rares femmes qui ont signé, dont les noms sont sauvés en Italie, en France. Il y a des merveilleuses compositrices. Mais pour la poésie en France, il ne faut pas oublier qu'il y a des grandes poétesses depuis le Moyen-Âge. Il y a les troubadours, les poétesses de troubadours, qui sont très connus, la comtesse de Die, Azélaïde Porquerag, Dame de Castellos. Après, il y a la grande Christine de Pizan. Je veux dire, c'est la plus grande plume française féminine. Donc, je me suis plutôt tourné vers ces gens parce qu'il faut que quelqu'un un peu s'occupe d'eux. J'ai beaucoup traduit Christine de Pizan. Le premier texte que j'ai écrit sur la poésie française s'appelle Christine de Pizan, la troubadouresse de la solitude. Parce que c'est une femme qui a écrit une ballade vraiment fascinante sur la solitude. Célette, je suis Célette parce qu'elle a perdu son mari très jeune, avec restant avec 3 enfants. Donc il a fallu nourrir la famille, survivre. Mais elle était très intelligente et respectée par le roi, par les certains aristocrates riches, mais elle était aussi attaquée beaucoup. Donc c'est une femme qui a eu vraiment de graves difficultés et qui faisait les polémiques écrites, elle se défendait, elle voulait rester écrivaine. Donc c'est une image d'une femme écrivaine moderne dans le vrai sens. Christine de Pizan. Après, il y a bien sûr Louise Labbé, il y a à côté de Labbé de Maurice Sève, il y a Pernette de Guillet. Ça, c'est aussi un cas exceptionnel. C'est comme, imaginez si Béatrice de Dante écrivait des poèmes. Parce que Pernette de Guillet était la dame de Maurice Sève qui a écrit la Délie pour. Mais Pernette de Guillet écrivait les poèmes pour Sève, pour son poète. Donc il y a des cas extraordinaires, très amusants, très intéressants, et ça me gêne un peu que ce n'est pas très un peu plus connu en France. Bon, ça me gêne. Voilà.
Eh bien, merci précisément, Kolia Mickiewicz, d'insister sur ce point particulier, parce que grâce à vous, certainement, et grâce au travail justement d'éditeur de Bruno Doucet, nous aurons l'occasion peut-être, ici, à partir de cette émission, Onde Poétique, peut-être d'aller chercher plus, mieux, la parole des femmes poètes à partir d'aujourd'hui. Merci Kolia Mickiewicz,
merci
Bruno Doucet.
Merci à vous.
Et merci à Guylaine qui a assuré donc cette émission et à Laurent Keller qui l'a partagée avec moi. Merci messieurs. Au revoir.
Onde poétique. Au Festival Voix Vive, à 7h.